entretenir de l'iconographie des sujets au Proche-Orient entre le 4e et le 1er millénaire, et en particulier la problématique de l'identification. Le matériel qui a été retenu pour ce corpus correspond à l'ensemble du matériel qu'on peut trouver de manière générale, à l'exception des vases zoomorphes qui font l'objet d'une communication spécifique qui aura lieu samedi. Pour ce qui est de l'aire géographique concernée, nous avons donc fait la demande. Nous sommes intéressés à la frontière iranienne ouest jusqu'à la côte levantine, en s'occupant de l'Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine et Israël. Sur l'ensemble de la documentation, nous sommes partis en fait des documentations de fouilles ou des articles et ouvrages déjà réalisés sur les sujets. Donc systématiquement, le matériel qui est présenté est du matériel qui était présenté comme étant déjà des cochons sauvages, cochons domestiques. À ce sujet d'ailleurs, je donne tout de suite une précision sur le fait que je ne parlerai jamais de sanglier, à moins que je connaisse le sexe, ni de porc, et je parlerai toujours de cochons sauvages, ce qui signifie sanglier, lait ou marcassin, cochon domestique, véra, truie, porcelet ou porc. Je ne pourrai parler du sanglier, la lait, le marcassin ou des autres que sous condition d'avoir pu identifier que l'animal était bien un mâle, une femelle, un jeune ou un adulte. Donc de manière générale, je commencerai déjà par parler de cochon. Et en parlant de cochon, je parlerai, on verra avec la phylogénétique, de sous-scrofa et sous-scrofa scrofa pour le cochon sauvage, sous-scrofa domesticus pour le cochon domestique. Donc une des questions de cette communication, enfin la question principale de cette communication, c'est pourquoi identifier? Pourquoi identifier? Bien, tout simplement parce que on a déjà eu des représentations qui avaient été identifiées comme celle-ci par Amiette comme étant un sanglier au départ. Cette représentation d'un animal qui provient de Suse, avait été dans, au tout départ par Meknen comme étant un sanglier, puis par la suite, au contraire, Amiette l'a identifié comme étant un hérisson, et ce qui ne laisse aucun doute sur le sujet, c'est qu'en dehors du fait de la carapace, le pic, c'est surtout le fait qu'il y ait des griffes et non des pattes. Ça ne soit pas des sabots, mais que ce soit des griffes, puisqu'on a plusieurs rangées de doigts et qu'on n'a pas un ongulé, mais on a bien un animal qui porte des griffes. De la même manière, le porcelet, aujourd'hui donc présenté comme étant un porcelet par Dominique Parer, avait été identifié au départ par Amier comme étant un ourson. Et là, pour les mêmes raisons, on peut difficilement parler d'ourson, puisque les pattes que nous avons ici ne sont pas des pattes qui sont des griffes, mais bien des sabots. En dehors du groin et des aspects des oreilles, on a bien des éléments qui permettent de pouvoir discriminer ces représentations. De la même manière, sur ces empreintes de sceaux, qui correspondent à deux dessins qui ont été effectués de la même empreinte, mais interprétés de manière différente. Cette empreinte de sceau qui a été retrouvée au Rook, et dont le dessin a été fait par Buren pour le dessin supérieur, où l'animal, ici donc notre ami le cochon, est représenté avec ce qui pourrait être son étui pénien. En revanche, sur la seconde interprétation du document, cet étui pénien a disparu. Ce qui est apparu en revanche, c'est la queue terminée par un toupet. Or là, nous avons la représentation, si effectivement cette représentation correspond, d'un animal sauvage, alors qu'ici, Buren avait identifié l'animal comme étant un cochon domestique. Donc pourquoi identifier? Et pour arriver à trouver les éléments qui vont nous permettre de pouvoir savoir si nous avons affaire déjà à un cochon, par rapport à ces représentations, au départ on pensait à d'autres animaux, et après savoir quel type de cochon, si c'est un cochon domestique, sauvage, si on peut aussi discriminer sa nature sexuelle. Pour ce faire, nous allons recourir à la zoologie, l'archéozoologie, la paléozoologie, tout simplement pour déjà établir au départ à quoi ressemble un cochon par rapport aux autres animaux, qu'est-ce qui le différencie à l'intérieur parmi les cochons, d'un cochon sauvage, domestique, d'un mâle, d'une femelle. Sachant que nous partons du postulat que nous avons affaire à des artisans et non à des artistes. L'ensemble des éléments théoriques qui sont sous-tendus par ce que je suis en train de vous présenter a déjà fait l'objet de communication. Je vais pas m'étendre dessus parce que ça serait trop long. Donc je ne vous donne en fait que les résultats. Et nous en avons la synthèse du traitement d'information et donc la méthodologie, des fondements de notre travail sous ce schéma avec donc le matériel. On part du matériel archéologique, on croise, est-ce qu'on a la présence, on se pose la question de savoir si on a la présence de l'animal sur l'objet, on passe par le processus d'identification qui comprend la zoologie, y compris l'épigraphie de là, nous n'avions pas cet élément-là à prendre en compte cette fois-ci. Et par tout le processus après, par le processus linéaire et donc plus circulaire, on en revient à un autre matériel. Bien, donc là maintenant je vais vous présenter brièvement, parce que vous avez déjà certainement dû avoir ça ce matin, quelques éléments de zoologie pour rappel. Déjà pour situer notre animal, donc celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, sachant que cet animal s'inclut dans la famille des sous-familles suinées, dans la famille des suidés, et que le phacochère, lui, en revanche, n'en fait pas partie. Cette indication va avoir une importance pour ce qui va suivre, parce qu'on va se rendre compte qu'on a une représentation de phacochère apparemment au Proche-Orient. Donc, ces différentes représentations sont là pour illustrer de manière plus vivante le tableau que vous avez vu précédemment. Et là, maintenant, on en vient à notre ami le cochon sauvage. Ce qui va nous intéresser particulièrement sur ces représentations, c'est le fait que la mâle se distingue par ses suites, les testicules qu'on voit ici. Les défenses pouvant être données très fréquemment comme un élément discriminatoire, mais on voit avec cette représentation que cet animal est bien un mâle, il a bien son étui pénien. En revanche, on ne voit pas ses défenses. Donc, il n'y a rien qui empêche de le confondre avec une lait comme on a ici, si ce n'est la présence donc des ailettes ici gonflées, puisque cette femelle était en état d'allaiter, et ici des tupelles. Donc c'est ça qui nous fait vraiment la différence entre les deux animaux, d'un point de vue zoologique du moins. Pour le marcassin, ce qui le caractérise, ce sont ses bandes horizontales, en dehors de sa taille par rapport aux adultes, c'est surtout les bandes horizontales et le fait qu'il ait une queue droite, comme ses mâles, mais qu'il n'est pas toupé au bout, tel que vous pouvez le voir là-dessus. Queue ouvrie, qui est l'appellation plus adéquate pour l'animal sauvage. Autre chose sur laquelle nous reviendrons, les oreilles qui sont d'aspect triangulaire pour l'animal sauvage. Et aussi, comme on peut le voir ici, une crinière dorsale, les caractéristiques qu'on retrouve aussi chez la femelle, même si elle est moins importante. En ce qui concerne le cochon domestique, lui, ce qui le caractérise, toujours sabot, hein, je reprécise, comme ça c'est important. En revanche, la queue peut être en tortillon, mais on peut aussi avoir des queues droites et longues. Donc ça va dépendre des races. Enfin, c'est bon de conserver à l'esprit que notre ami le cochon domestique n'est pas uniquement un animal à queue en tortillon. Et ses oreilles, qui sont en ailes de chauve-souris, on peut particulièrement bien le voir ici. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'avec les différentes races, on peut avoir des aspects, comme ici le plan de Munich, des aspects de cochon domestique qui, par leur robe, peuvent rappeler des animaux sauvages. Donc les critères d'identification finalement qu'on retient, ce sont les pattes ou pinces, qui sont des sabots. Dans le museau, le boutoir, défense et crochet, crochet étant pour femelle. La morphologie avec un animal qui a tout le poids de son corps sur l'avant pour l'animal sauvage et un animal avec une tête et un corps au boudin pour l'animal domestique. Les oreilles triangulaires chez l'animal sauvage alors qu'ils sont en aile de chauve-souris chez l'animal domestique. Une queue avec un toupet chez l'animal sauvage alors que la queue peut être en tortillon ou droite mais sans toupet chez l'animal domestique. Une robe, et ça on retiendra, les différences de robes ne sont pas retenues pour l'iconographie parce qu'on n'a pas d'éléments qui permettent de servir réellement. Et pour les attributs sexuels, la présence des suites ou testicules, des vêtus péniens et des ailettes, autrement dit les mamelles, pour les femelles. Donc ce tableau est un élément plus complexe que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il reprend l'ensemble, comme il n'est pas très visible, je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc en dehors de la morphologie de l'animal, ce qui est aussi important de retenir, ce sont quelques éléments d'éthologie, à savoir que le cochon sauvage n'est pas seulement un animal de forêt ou de plaine, mais qu'il soit aussi un animal d'eau douce et d'eau de mer d'ailleurs, et que c'est un bon nageur. Et aussi, une chose intéressante, c'est que quand il y a un danger ou quand il est en fuite, il a la queue qui est redressée à la verticale, ce qui peut être un signe intéressant dans l'iconographie, comme on le verra. Maintenant, je vais passer à l'analyse iconographique en soi. Pour information, on s'est intéressé au 4e premier millénaire, mais il faut savoir qu'il y a des représentations de cochons déjà bien avant, dès le 6e, la Tébé-Sirab, datée du 6e millénaire. Donc ça fait qu'entre le 6e, sachant qu'il y en a peut-être déjà encore avant, et le 4e, on a d'autres représentations, Tébé-Sirab étant en Iran. Bien. Concernant les représentations qui vont nous intéresser, on a recensé 143 documents. Tous n'ont pas été utilisés, il y en a 86 qui ont été retenus. Tous n'ont pas été utilisés parce que certains venaient du commerce de l'art, 9 d'entre eux. D'autres de provenance indéterminée ou inconnue, donc on ne savait pas s'il vient du commerce de l'art ou non. Une bonne partie d'entre eux aussi posait le problème de l'image, je n'avais aucune image pour pouvoir travailler, donc aucune possibilité de pouvoir faire une analyse critique de l'identification qui avait été donnée. Donc autrement dit, sur un corpus de 143 recensés, au final j'ai pu travailler que sur 86 documents. Et concernant ce travail, il a son importance puisque sur ces estampages qui ont été retrouvés à Nippur, on a ici... Si j'avais cette seule plaquette, par exemple, j'aurais pas pu déterminer que cet animal était un cochon. Tellement, ce qui reste est informe de la même manière ici. En revanche, ici, avec celle-ci, ceci est un détail, on voit parfaitement que l'animal possède des sabots, qu'il a surtout un boutoir, un museau terminé par un boutoir, et qu'il a donc une forme avec la tête et le corps ramassés. Donc là, il s'agit uniquement de savoir si on a affaire, en tant qu'animal, à sous. pas à savoir si c'est un cochon sauvage, domestique ou autre. Là, pour l'instant, première étape a été de savoir si j'avais bien un sousse et pas un hérisson, un ours ou autre chose. En revanche, pour la discrimination entre sauvage et domestique, une fois qu'on a vu établir qu'on avait bien un cochon, on a différents éléments qui nous ont été utiles, dont la morphologie, en iconographie. Par exemple, sur ce bol gravé qui était retrouvé au Rook, on a un contexte de chasse, donc un animal avec des sabots, contestablement un cochon sauvage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cochon sauvage, il a une queue en fourche. Cet élément est important non pas pour cette représentation-ci, mais pour celle-ci. Parce qu'ici, on retrouve cette représentation de queue en fourche qu'on a uniquement pour les cochons sauvages. On a d'autres représentations, que je ne vous en présente que deux, mais on a d'autres représentations. Et sur ces autres représentations, on a systématiquement pour cet animal sauvage avec la queue en fourche. Donc même si on n'a pas la race de l'animal, on sait qu'ici on a affaire à un cochon sauvage. De la même manière, sur ces trois documents, qui sont cachés zoomorphes et deux pendentifs, sachant que donc, ces deux qui proviennent de Suisse et celui de Rafadjé, on a par la morphologie à nouveau de cette tête qui occupe une bonne partie du corps, avec donc tout le poids étant sur l'avant et non pas uniquement concentré sur le corps, des animaux sauvages. Donc là, on a vu la morphologie, ce qui aide aussi, parfois, c'est le contexte. Le contexte, par exemple, sur l'ensemble de ces documents, on le retrouve avec quelque chose qui est intéressant, c'est cette association avec le félin, et en particulier le lion mâle. Donc ici, sanglier, avec, déjà par la morphologie, on a un toupet au bout de la queue, la crinière dorsale, l'association avec le lion. De la même manière, de chasse, un félin, qui est un lion, l'archer et notre cochon sauvage. De la même manière, ici, nous retrouvons sanglier, poupée, scène de chasse aussi, avec en plus ici une scène de chasse au chien. Donc sur l'ensemble de la documentation, on retrouve fréquemment cette association entre le cochon sauvage et le lion, sachant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette association se retrouve quand même sur près de 4 millénaires, puisque ce document aussi, qui est un détail d'une empreinte de Suse, qui est datée de 3000, entre 3005 et 3000, alors que ce document-ci est d'époque achéménide et provient aussi de Suse, on retrouve encore cette association, donc lion et cochon sauvage. Et sur cet âge provenant d'Ougarit, on retrouve à nouveau le félin, la crinière permettant de déterminer qu'on a bien un lion mâle en l'occurrence, donc deux têtes de félin, notre ami le cochon sauvage, qu'on ne peut pas déterminer comme étant un sanglier à nouveau puisqu'on n'a pas de moyen de reconnaître les attributs sexuels, en tout cas à partir de la photographie. Donc sur l'ensemble, maintenant si on se retrouve avec un animal qui a les caractères de sousse et qu'on ne sait pas discriminer si on a un cochon sauvage ou un cochon domestique, la présence du lion, le rapport en fait lion et cochon sauvage étant établi par ailleurs, on est en mesure de pouvoir dire qu'on a une forte probabilité pour qu'on ait bien un cochon sauvage et non pas un cochon domestique. Donc à nouveau le contexte, là on a un chasse au chien, sachant que les chiens sont en surnombre, trois chiens contre un sousse, mais certain d'avoir un cochon sauvage avec l'être humain représenté sur l'autre partie de la bulle. Et sur ce relief de Sennacherib, ce qui nous donne le contexte, ici donc nous avons un sousse avec d'autres plus petits, sachant que l'un d'entre eux est en train de s'allaiter, donc avec, on a bien la présence des allaites. Dans cette scène, parmi cette forêt de roseaux, on en a un ici aussi, de sousse, parmi cette forêt de roseaux qui sont détachés des êtres humains qui sont représentés là, nous avons, en dehors de l'être humain, une représentation de cochons qui met bien en valeur qu'on a affaire à des cochons sauvages et non à des cochons domestiques qu'on va aller amener pâtre, si j'ose dire. Alors, ça, c'est un élément intéressant par rapport à l'ethnographie, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les chasses. On a une scène qui est assez fréquente, qui est celle de la chasse dans les marais, qu'on reconnaît au fait qu'on ait une barque avec deux chasseurs-pêcheurs et des lignes ondulées, des poissons, etc. Et cochon sauvage. Et ce qui est intéressant pour l'intervention de l'ethnographie, sachant que cette photo-ci a été prise par Tessinger, qui a fait une enquête ethnologique au début du XXe siècle, c'est qu'on a cette pique qu'on retrouve sur beaucoup de représentations. On a cette pique qui est terminée non pas par une seule fourche, mais qui est terminée soit par un trident, soit par deux dents. Comme on a ici la pique et les deux fourches. Donc sur cette représentation, il ne s'agit pas d'un animal qui est mis en élévation, mais il s'agit en fait non seulement d'une scène d'un chasse à l'arc, mais cet animal étant non seulement touché par les flèches, mais aussi mis à mal par une pique commandant les pêcheurs-chasseurs. Donc ce qui fait que par l'ensemble de ces éléments, ici où on n'a plus que le détail en fait du chasseur-pêcheur avec sa pique, ou sa fouane, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, la barque et son compagnon, de la même manière, on a une forte probabilité pour qu'on ait affaire à nouveau à une scène de chasse dans les marais, donc de scène de chasse aux cochons sauvages. Pour ce qui est de l'animal domestique, là les choses sont différentes. Donc, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de cet estampage d'hippo. Là, la question quand même reste en suspens de savoir si habituellement on prend ce cochon comme étant un cochon domestique. Par le contexte, on doit bien avouer quand même que la morphologie de l'animal en lui-même, par rapport à ce que je vous ai dit concernant le critère et concernant le poids vers l'avant, pose problème puisque ça serait plus un cochon sauvage qu'un cochon domestique. Là, à ce moment-là, je demande aux épigraphistes éventuellement de me venir en aide un beau jour pour savoir si on a déjà ce type d'éléments attestés par l'épigraphie, à savoir si on a bien un instrumentiste entouré d'un chien et d'un cochon domestique ou s'il n'y a rien qui soit mentionné. Dans l'état actuel, on reste avec l'hypothèse d'un cochon domestique, par le contexte. Inversement ici, c'est le fait que l'ensemble du poids soit dans le corps qui nous fait dire qu'on a une forte probabilité pour qu'on ait un cochon domestique et non un cochon sauvage. Ici, ça va être la queue, le morphologique. La queue qui est redressée comme ça, on ne la connaît pas, sauf quand l'animal a peur, effectivement, mais là, il n'y a pas de poupée. On ne la connaît pas chez l'animal sauvage, en revanche, on l'a chez l'animal domestique. Cette figurine en argile pour Nantello, elle est un peu problématique parce qu'on a un peu quelque chose d'hybride où on a l'ensemble du poids qui est effectivement vers le corps, mais pas comme ici, on a bien une distinction entre la tête et le corps. Donc, savoir si on a un cochon domestique ou sauvage est plus délicat. En revanche, ici, on a bien donc cette distinction tête-corps. Et donc on a non seulement, là en l'occurrence, un cochon sous domestique, mais on a aussi une des rares attestations où on peut reconnaître un mâle et une femelle et des porcelets. Donc là, je fais un peu une entorse à la communication qui va y avoir lieu samedi, puisque je vous parlais d'un vase de Telbrac, qui est très intéressant pour la question de morphologie, où je vous ai dit tout à l'heure que les cochons domestiques se reconnaissaient aux oreilles mâles de chauve-souris. Si le dessin correspond à l'objet réel, on a bien ici ce découpage d'oreilles, comme ici et comme là, en aile de chauve-souris, sachant que notre ami ici a des oreilles triangulaires. On aurait pu penser, puisque ça avait été apprêté comme étant une tête de vache, qu'on pourrait penser à un autre type de bovin. Mais le seul bovin qui ait des oreilles, que l'on dit aussi en aile de chauve-souris, c'est le buffle d'eau. Et le buffle d'eau, ses oreilles, elles sont tombantes. Elles sont absolument pas remontantes. Après, il faudra aussi voir si le réservoir a une forme qui est liée à sa fonction ou qui est liée aux correspondances avec un boudoir. Mais en dehors de ça, cet élément-là, de la même manière que la tête, qui est très prononcée, comme on l'a pu l'observer chez le Vera, nous fait dire qu'on a une forte probabilité pour qu'on ait un cochon, et particulièrement un cochon domestique. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de cochon domestique, de cochon sauvage. Là, je vais vous parler de mâle-femelle. Donc je reprends certains des documents tout à l'heure pour bien montrer effectivement cette séparation, identification, différentes étapes. Ceci donc étant le détail du relief que vous avez à votre gauche. Et là, on voit bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un des marcassins qui était en train de s'allaiter, on a les alettes, et on a bien l'animal qui est en train de s'allaiter, donc ici, on n'a aucun problème pour reconnaître un cochon sauvage, femelle, une lait, autrement dit. Sachant que le cochon qu'on a ici, ne possédant pas ses alettes, ne possédant aucun attribut sexuel, on peut en déduire qu'à l'inverse, on a la représentation d'un sanglier cette fois. Et ce sanglier, on le retrouve sur cette même empreinte, sous condition qu'on puisse le vérifier sur le document original, puisque ici, il semblerait bien qu'on ait la représentation d'un étupénien. Donc, sur la présence de cet étupénien, on aurait à ce moment-là un sanglier, non plus seulement un cochon sauvage. De la même manière, le fait que sur cet estampage, on ait un animal qui couvre un autre animal qui est en train d'allaiter, on n'a aucun problème pour savoir qu'on a bien un mâle et une femelle avec des porcelets. Donc ça paraît évident, mais c'est quand même, dans une démarche scientifique, c'est une chose que l'on doit présenter au fur et à mesure. Bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé du phagochère. C'est maintenant qu'il va rentrer en ligne de compte, puisque un des soucis que l'on a particulièrement avec le cochon, c'est le fait qu'il ait été associé de très nombreux animaux, qu'il soit confondu assez fréquemment avec de très nombreux animaux. Je ne pourrais pas tous vous les présenter ici, parce qu'on n'aura pas le temps de vous en présenter un certain nombre. Dont, alors celui-là, il n'y a pas eu de confusion possible. En revanche, ce qui a été confondu, c'est le fait que cette tête de cochon, elle peut difficilement être une tête d'un sous-scrofin, d'un cochon sauvage ou domestique, du fait de la prééminence des défenses. Je vous ai mis pour rappel phacochère, ilochère et un sanglier. On voit bien la taille, la différence aux tailles des défenses. Ce qui nous fait dire que ça ne peut pas être un ilochère en revanche, c'est l'absence de verrues, ou du moins l'absence des éléments qui pourraient correspondre à une verrue. Et on pourrait éventuellement supposer que cette prééminence des défenses serait un moyen de mettre en avant la capacité du sanglier à avoir des défenses imposantes, à blesser, à Donc malheureusement, sur le reste des têtes qui sont présentées, on n'a aucun caractère hypertrophié des animaux. Il n'y a pas de raison que cette tête-là soit la seule à bénéficier d'un traitement spécifique par rapport aux autres têtes. Donc cette tête est comme les autres, représentée de manière naturaliste. Si c'est le cas, le seul animal qui corresponde, ce serait le phacochère. Donc toujours parmi ces confusions, on a le problème entre le cochon et la hyène. Ça peut pas surprenant parce qu'on peut se dire, quand même, faire la différence n'est pas compliqué. Mais pourtant, sur le document de Suze, Amiette avait traduit cet animal comme étant un cochon, un sanglier plus particulièrement. Or, je vous ai mis pour rappel des photographies de hyènes, ceci étant non une photo, mais un dessin sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et il est clair qu'ici on a des griffes, qu'on a bien donc la queue touffue avec les crêtes dorsales, comme on a chez la hyène. Et alors, à ce moment-là, la question se pose avec d'autres représentations, surtout quand elles sont fragmentaires, puisque le cochon a la particularité d'avoir effectivement une crête dorsale qu'il partage avec la hyène. Est-ce que ces documents-là sont aussi des représentations de hyènes, puisqu'on a bien la représentation de hyènes au Proche-Orient, ou est-ce qu'il s'agit bien d'un cochon? Sur celui-ci, la taille du corps pourrait militer pour celle d'un cochon, mais on n'a pas la tête et la queue, donc c'est difficile de vraiment pouvoir se faire une idée précise scientifiquement parlant. C'est pareil sur ce problème-là. De la même manière, sur cette représentation d'un des vases qui avait été retrouvé à Rafadjé, c'est qui est une peinture, au départ, l'identification avait été proposée comme étant celle d'un sanglier, mais rien n'était certain. Effectivement, elle était certaine puisque la hyène présente la particularité en plus, quand elle a peur d'avoir sa fourrure qui se grossit, tant et si bien que chez certains artistes du XXe siècle, on a eu l'occasion d'avoir des représentations de ce genre-là. Donc, il est tout à fait possible qu'on ait ici une représentation d'une hyène. Ce qu'il faudrait voir sur le document original, puisqu'il ne s'agit que d'une reconstitution et qu'on n'est pas sûr de la reconstitution, c'est savoir exactement comment se présente le boutoir ou la gueule, s'il s'agit d'une hyène. Le cochon au tapir, sur l'estampage de Babylone, qui est celui-ci, avait été identifié par un glisseur, si je me rappelle bien, avait été identifié comme étant un sanglier. Or, ce qui pose problème, c'est le rapport avec la museau, parce que, comme vous pouvez le voir, on le retrouve parfaitement chez le tapir. Alors après, à savoir, est-ce que chez le tapir, est-ce qu'on a des tapirs au Proche-Orient? Ça, par contre, j'en sais rien. Alors, voilà, le problème, il n'y a aucune information là-dessus. Alors, si on n'a pas de représentation de tapis, en revanche, ce qui serait bon de savoir, c'est s'il y a pu y avoir des échanges, au moins sous forme de récits, pour qu'on ait des représentations de ce genre-là. Avec le hérisson, donc je vous ai parlé de ce document-ci tout à l'heure, de la même manière, cette représentation avait été identifiée comme étant, comme hésitant, en fait, parmi entre cochon et hérisson. Celle-ci, en revanche, est identifiée comme étant un cochon. Or, la terminaison correspond beaucoup plus à ce qu'on peut avoir chez le hérisson. Sur celui-ci, le martelage, le piquetage du corps correspond aussi à ce qu'on peut avoir chez un hérisson. En revanche, la question se pose beaucoup plus pour celui-là, parce que c'est pas parce qu'il est sur ses deux pattes, ou sur ses quatre pattes plutôt, qu'on peut le voir ici, qu'on a forcément un cochon et non pas un hérisson. Donc là, cette représentation-ci reste problématique. En revanche, pour celle-là, c'est sans aucun doute un hérisson. Cochon ou bovin? Alors c'est pareil, ce moulage en bronze a été identifié comme étant un cochon. Or, l'angle que fait la tête avec le corps, on le retrouve ici. En revanche, chez le cochon, qui soit domestique ou sauvage, c'est pareil, on n'a pas un angle, on a une courbe. Même si une courbe, c'est un angle concave, ça n'empêche qu'on n'a pas un angle de 90 degrés. En plus, en dehors de ça, si le dessin correspond à la réalité et qu'on a bien ici un appendice qui se rejoint des deux côtés, on a des cornes, on n'a pas des oreilles, donc on a un bovin. En revanche, la question sur cette empreinte est vue difficile à régler puisque ça avait été identifié comme étant un sanglier. Le fait qu'il soit sur pattes, qui présente certes des tabous, qu'il ait ici la queue terminée par le toupet et qu'il ait une toison aussi fournie, est-ce que c'est un critère suffisant pour le distinguer, puisqu'on n'a pas une représentation de la queue suffisamment claire là-dessus, pour le distinguer d'un bovin? Sur cette empreinte de saut qui est retrouvée à Carchemish, on a des bovins qui ont des toisons importantes. Habituellement, ils sont représentés comme étant trois capridés, mais il y a impossibilité puisque la queue longue, alors qu'ici on a la queue courte, caractéristique chez les caprins, les cornes qui vont vers les appendices qui vont vers l'avant et non pas vers l'arrière, ici, on a sans conteste avec aussi, donc il y a la présence de sabots, un bovin. Or, ce bovin est strié comme étant strié les autres caprins, donc on a ce rapport de toison qui est présent aussi. Donc là, la question reste en suspens de savoir si on a un bovin qui est en train d'être sacrifié, plutôt que ce soit un sacrifice, ou si on a un cochon sauvage. Il reste quelques problèmes d'identification, d'abord parce qu'on n'a pas forcément toujours eu des reproductions de qualité suffisante, comme par exemple pour cette empreinte où on n'arrive à rien distinguer. Donc même si on l'a recensée, on ne peut pas se prononcer sur la nature de l'animal. Il en va de la même manière pour cette représentation où il y avait une hésitation entre lion, bélier et cochon, ça fait quand même beaucoup. Et bon, est-ce que ça c'est une crinière? C'est difficile vraiment à pouvoir le voir depuis la photographie, donc on a pu la retenir. En revanche, sur ce pontif, on a clairement ici une gueule et non pas un groin avec un boutoir. Donc s'il y a eu une identification comme étant un sanglier, elle ne peut pas être défendue. Et aussi la présence de cette incision comme un collier pose problème. De la même manière, sur cet autre pendentif, un des soucis était de savoir si ceci pouvait être un moyen de pouvoir discriminer un cochon par rapport à notre animal. Si je me suis posé la question par rapport à ça, c'est par rapport à ce document, ce bol que je vous ai présenté tout à l'heure, où on a bien cet appendice nasal qui remonte comme ça. Et on a bien cet appendice nasal, on a bien un cochon ici. Donc est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre les deux documents? Comme on n'en a qu'un seul exemplaire, ce n'est pas suffisant pour pouvoir trancher, il faudrait qu'on en ait d'autres. Donc pour l'instant, ce sont des choses qui restent en suspens. Donc pour conclure, l'ensemble des documents qu'on a recensés, donc se concentrent beaucoup dans le bassin mésopotamien, on en a aussi dans le nord, mais comme vous pouvez le constater, en matière d'iconographie, ça reste très vide, on n'a qu'un seul exemple à Gezer, ça reste très vide en Palestine, en Jordanie, ça reste très vite aussi peut-être parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes références, donc ça serait à poursuivre. Finalement, donc, sur les 143 documents qu'on a recensés, et sur les 86 qu'on a retenus, il n'y en a que 54 qui ont pu être identifiés comme étant des cochons, c'est-à-dire des sousses. Et sur ces 54, on n'en a que 25 qu'on a pu définir comme étant des cochons sauvages. Sachant que sur ces 25 cochons sauvages, on a pu définir qu'un seul sanglier, une laie, un marcassin. Et on a pu définir 6 cochons domestiques avec un verra, une truie et 2 documents comportant des porcelaines. Donc pour aller plus loin, autrement dit, pour pouvoir se faire une idée beaucoup plus juste que ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent, ça serait bien de pouvoir reprendre, puisqu'on n'a pas pu, il y a 143 documents recensés, mais il y a beaucoup plus de documents. On n'a pas eu la possibilité de pouvoir tous les recenser. Donc ça serait pour pouvoir confirmer, infirmer ou affiner l'ensemble du travail qui a été effectué, ça serait déjà d'augmenter le corpus. Et d'augmenter le corpus en faisant une identification systématique pour avoir un catalogue critique, c'est-à-dire faire le travail qu'avait fait Van Buren, mais non pas en reprenant, sans critiquer les sources, le recensement des cochons, faire le même travail que Van Buren avec une approche critique.